Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de focus réalisée avec Virginie de Bongrimouillon. Suite à un vote sur Instagram, vous avez choisi les sujets et l'ordre des sujets traités. Nous les avons réalisés en une seule après-midi, c'est pour ça que je vous invite à les écouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez retrouver le numéro dans le titre de l'épisode. Je vous souhaite autant de plaisir à les écouter que nous avons eu à les réaliser. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie.
Bonjour Cédric.
Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel moi je suis plutôt extérieur finalement.
Ouais.
C'est la grossesse et l'accouchement.
Ouais. La grossesse et l'accouchement, alors je vais commencer dans l'ordre, donc la grossesse. Pour moi, ce qui est important, ce que j'ai envie de communiquer, c'est surtout en fait que la grossesse, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de pathologique, c'est normal, c'est naturel, et c'est important pour la femme de savoir qu'elle est, de rester actrice en fait, dans tout ce déroulement, dans toute cette évolution. Parce que bon, moi, j'ai personnellement vécu vraiment des grossesses différentes. J'en ai eu trois. Les deux premières, on va dire la troisième, ressemblait un peu à la deuxième. Mais voilà, dans les deux premières, il y en a une où je me suis laissée prendre en charge. Et dans la deuxième, je me suis prise en charge. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été accompagnée. Mais voilà, c'était... Dans la première, je suis allée voir une gynéco. Je ne savais pas du tout et je me suis laissée porter. Alors, bon, bah, moi, mon caractère a fait que ça ne m'a pas plu assez rapidement, en fait, qu'on ne me donne pas de réponse et qu'on veuille me prendre mon rôle, me dépouiller de mon rôle et m'infantiliser. J'étais en opposition avec ça. Mais ça peut ne pas être dérangeant pour d'autres femmes, sauf que le problème de l'infantilisation, c'est qu'il enlève aussi toute confiance en soi, en son corps, etc. Donc pour moi, ce qui est important, ce que j'aimerais dire à une femme qui est enceinte de son premier enfant ou plus, mais qui ne s'est pas encore posé trop de questions, c'est ça, c'est ton corps, il est capable de faire le travail, il est capable de fabriquer ton enfant, il est capable de prendre soin de ton enfant, tu es capable de prendre soin de toi, tu es capable d'enfanter cet enfant, et personne ne doit te faire croire le contraire. Et le problème de quand on rentre dans le milieu médical, la plupart du temps, alors tous les praticiens et les praticiennes ne sont pas pareils, mais la plupart du temps, ça va être... le but, c'est que, exactement comme pour la pédiatrie, la gynécologie, la gynécologie obstétrique, le but, c'est que l'enfant ne meure pas. Voilà. C'est pas de donner confiance à la mère, c'est pas que tout se passe bien, émotionnellement, etc. Sauf que, on va se rendre compte que les émotions, ils vont avoir un énorme impact sur l'accouchement, quoi, sur la confiance que la femme se porte. Et donc, il y a plein de petites choses que j'aurais aimé savoir. Qui semblent être des petits détails, mais que j'aurais aimé savoir dès le départ. C'est-à-dire, par exemple, on n'est pas obligé d'aller voir un ou une gynéco. On peut très bien passer par une sage-femme libérale qui ont tendance à donner beaucoup plus de temps. Quand je dis tendance, c'est pareil. Hein, on va pas, je fais en règle générale, mais bien sûr qu'il y a toujours des professionnels qui sont pas, qui fonctionnent pas comme ça. J'en ai rencontré des gynécos qui étaient pas du tout comme ça, donc ils ou elles ne sont pas tous pareils, mais. Voilà, donc plutôt de se diriger vers une sage-femme qui va avoir plus de temps, qui va avoir plus d'expérience avec la femme et avec le suivi d'une femme dans sa féminité et pas juste sur la mécanique de l'obstétrique. Se renseigner sur ce qui est obligatoire de ce qui ne l'est pas. En fait, rien n'est obligatoire. Par exemple, voilà, même les comment si on n'est pas du tout à l'aise avec les échographies, par exemple, il faut savoir qu'il y a 3 échographies qui sont conseillées, mais pas du tout obligatoires. Alors, bien sûr que ça va être mieux dans le sens où on va pouvoir voir s'il y a des pathologies, etc., des choses comme ça. C'est ce qui va permettre de réduire les risques à l'accouchement, justement. Mais faut vraiment faire les choses en confiance. C'est-à-dire que moi, avec lors de ma 3e grossesse, quand j'allais faire une échographie, j'allais la faire parce que je savais que je voulais la faire, quoi. C'était pas parce qu'il fallait. C'est pas parce que j'étais obligée. C'est pas parce que c'est obligé, parce que sinon quoi. En fait, il se passe rien, quoi. Non, c'est pas une obligation. Les touchers vaginaux à répétition. Alors ça, j'ai vécu 2 grossesses sans aucun toucher vaginal. C'est complètement, ça ne sert à rien, mais à rien, vraiment. Là, pour le coup, c'était même un gynéco qui me demandait, qui m'a posé des questions et qui m'a même pas proposé un toucher vaginal. C'était lui qui me suivait à l'hôpital à ma 3e grossesse. Et pour avoir un suivi à l'hôpital, on m'avait conseillé lui plutôt qu'une autre sage-femme. Donc, j'étais allée voir lui, pour le coup. Il proposait même pas ça parce que lui-même savait que ça n'avait aucun. C'est juste une question de curiosité à la fin de la grossesse de faire un toucher vaginal. À combien on est ouvert? Sachant que ça peut aucune indication. On peut être ouvert à 3 cm et puis que ça fasse rien du tout, quoi. Que l'accouchement, il va pas plus se passer vite que si on était ouvert à 0, quoi. Enfin, et ça peut même, à contrario, apporter des germes qui n'ont rien à être là. Je veux dire, le col, il est fermé, c'est pas pour rien. Donc, apporter des germes près d'un col qui est prêt à s'ouvrir, c'est pas du tout une bonne solution, quoi. Alors, il y a des questions à savoir. S'il y a des douleurs, oui, ça peut être quelque chose pour vérifier s'il n'est pas trop ouvert, s'il n'y a pas risque de fausse couche, s'il y a des saignements, des choses comme ça. Par contre, si tout se passe bien, si on se sent bien, s'il n'y a pas de douleur, pas de saignement, il n'y a aucune raison de faire un toucher vaginal. Et ça, je ne connais pas beaucoup de mamans qui le savent, en fait, quoi. Voilà, donc se renseigner sur les actes obligatoires, les décollements de membrane, c'est pareil, avoir toutes ces. Quand on se renseigne, on est un peu plus à l'aise avec les termes, même si on n'arrivera pas à les ressortir nous-mêmes, quand on va nous parler de quelque chose, et ben du coup ça va nous faire type. Oui, mais ça, j'ai lu que quand même, c'est pas tip top, ou voilà. Et après, choisir, accepter les choses en conscience. Et c'est comme ça qu'on garde confiance en soi, c'est comme ça qu'on garde confiance en ses capacités, etc. C'est que, ok, le médical, il est là parce que, bon, pour être sûr que le bébé va bien, etc. Par contre, il ne faut pas qu'il prenne le pas sur la confiance en soi de la maman. Et, ouais.
Moi, je sais que j'ai le souvenir, tu vois, en tant que père et accompagnant, d'un discours médical. Je parle bien médical parce qu'on avait aussi vu une sage-femme indépendante à côté,
Ouais.
qui était vraiment, qui ne te parlait que de ce qui pouvait se passer mal.
Ouais. Ouais, et ben
Et c'était, enfin moi perso, j'étais là en mode, oh, mais c'est la guerre, quoi.
Et ça, du coup, ça justifie, du coup, après les comportements des parents, parce que des fois aussi, le ou la conjointe sont aussi en contact avec ces stress, en fait. Donc, ça justifie après qu'une mère, elle va se laisser complètement faire, rester complètement passive à sa grossesse et à son accouchement, parce qu'elle considère que seuls eux peuvent garder son enfant vivant, peuvent prendre soin de l'enfant. Et alors que quand on commence à se renseigner un peu sur les mécanismes hormonaux qui rentrent en jeu pour la grossesse, pour la grossesse et l'accouchement surtout, on se rend compte que c'est juste marcher sur la tête de faire ça, quoi. Au contraire, quoi. C'est ok, le médical, il connaît les risques sur ci, ça, il connaît les trucs, mais ça sert à rien d'aller stresser les parents avec les possibles risques qui peuvent se passer, quoi. Donc pour l'accouchement, je pense qu'il est important de s'entourer de personnes qui vont nous suivre, de personnes positives qui vont nous suivre le moins médical possible, si la grossesse n'est pas pathologique, si tout se passe bien. Et puis de se trouver je perds tout le temps ce mot, déjà la dernière fois, une préparation à l'accouchement, voilà, une préparation à l'accouchement qui va nous correspondre. Et là, c'est pareil. Enfin, moi, je me rappelle à ma première grossesse, c'était global, normal, quoi. Accompagnement global, classique, où on va nous apprendre à comment le bébé descend dans le bassin, comment c'est, comment ça. On ne parle pas d'hormones ou très peu, alors que c'est quand même le truc de l'accouchement, quoi, qui fait qu'un accouchement se passe bien, c'est les hormones. Et j'avais lu le livre je l'ai noté, Attendre bébé autrement. Du coup, j'ai noté les noms cette fois-ci. C'est Catherine Pirot-Rouet et Emmanuel Semper-Gendre qui ont écrit ce livre et qui parlent de plein d'accompagnement, de préparation à l'accouchement que je ne connaissais pas du tout. Donc, il n'y en a pas partout, mais il y avait le champ prénatal qui a, j'en ai après entendu plus parler, notamment par des mamans qui avaient pratiqué, le champ prénatal qui apprend à utiliser la voix. Et après avoir accouché, du coup, je me rends compte que oui, c'est carrément important. Donc, la voix, d'être dans les graves, les aigus, etc. Mais voilà, de savoir positionner sa voix, ressortir par les sons, en fait. L'aptonomie aussi, que moi j'ai pratiqué pour de grossesses, la sophrologie, l'auto-hypnose, la piscine aussi, ça c'est génial d'apprendre à se détendre dans l'eau, d'apprendre à faire des mouvements, à utiliser son corps, à prendre possession de ce corps qui change, qui se modifie. Voilà, et ça peut être rien, hein. Ma dernière grossesse c'était rien du tout, ça m'allait très bien comme ça. C'était moi je me le suis fait à moi-même, mais par exemple il y a aussi quelque chose que je conseille beaucoup aux mamans quand je croise des mamans qui sont enceintes qui demandent des conseils quand elles sont enceintes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. C'est regarder des vidéos de mamans qui accouchent à domicile. Ça, moi, pour mon deuxième, et ça m'a tellement aidée, en fait, pas de le voir comme quelque chose, j'étais un peu actrice quand je regardais, je pense que les neurones miroirs ont bien joué. C'est-à-dire que je comprenais ce qui se passait réellement pour la femme. Je voyais dans quel état elle était, un état second. Et bien, c'est ça, pour mon premier accouchement, j'ai fait avec Perry parce que j'étais incapable vraiment d'accueillir la douleur pour plein de raisons. Et pour mon deuxième accouchement, je m'étais préparée un accouchement à domicile qui n'a pas pu avoir lieu pour une raison médicale, mais j'étais prête quand même. Et notamment, les vidéos m'ont beaucoup, beaucoup aidée à comprendre. Mais j'ai quand même accouché sans Perry et... naturellement, on va dire, mais à l'hôpital. Mais tout s'est passé, voilà, j'aurais été à la maison, ça serait passé à peu près pareil, j'imagine. Et donc, de regarder ces vidéos, j'ai compris en fait dans quel état il fallait que je me mette. C'est-à-dire que, comme dit comment Lucille Gomez dans son livre sur l'accouchement, comment ça s'appelle, La naissance en BD, elle parle de débrancher son cerveau, son cortex préfrontal, non, son néocortex, de le débrancher, de le laisser dans la table de chevet. C'est exactement ça en fait, c'est vraiment. Il ne faut plus réfléchir, et quand vraiment les contractions sont très présentes et que la douleur est très intense, si elle est très intense, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais si elle est très intense, d'arriver à débrancher son cerveau. Et ben, c'est ça en fait, de se dire, de rester dans sa bulle. Et voilà. Par contre, je vais un petit peu vite parce que je parle directement de l'accouchement, mais voilà. Pour ce qui était de la préparation, c'est ça, c'est justement regarder des vidéos, parler avec des sages-femmes, avec sa sage-femme.
J'ai une question qui me taraude là en fait, et pour le coup sur lequel je suis pas du tout compétent. C'est quoi la différence pour le coup entre une sage-femme et une doula?
Bah, la sage-femme, c'est une professionnelle, c'est-à-dire que déjà elle a fait des études pour savoir le fonctionnement du corps, etc. Donc elle peut accompagner en fait. La sage-femme, c'est une gynécologue qui n'a pas le diplôme de gynécologue, à peu de choses près. Hein.
D'accord.
Elles sont pour l'obstétrique, en tout cas pour accompagner une femme dans la grossesse, l'accouchement et les soins en bébé, elle est aussi compétente qu'un gynécologue.
D'accord.
Après, le gynéco, lui, il va avoir, ou elle, aura plus... sur les grossesses pathologiques, c'est-à-dire que une sage-femme, si jamais la grossesse est pathologique, s'il y a un problème avec le fœtus ou s'il y a un problème avec la maman, elle enverra du coup vers un gynécologue qui lui est compétent pour les grossesses pathologiques. Mais donc c'est pour ça que qu'en gynécologie, ouais. Pour le gynéco, tu m'as pas demandé gynéco aussi, mais un ou une gynécologue aura tendance à être plus dans le médical puisqu'ils sont formés à la pathologie, à la grossesse pathologique. En fait. Et une doula, c'est l'amie, c'est la femme, c'est la femme qu'on n'a plus dans nos sociétés qui est là, qui était là avant. C'est celle qui va accompagner la femme dans sa féminité, dans sa confiance en elle, qui va la rassurer s'il y a besoin de rassurer, qui va donner les informations, s'il y a besoin de donner les informations, qui va être... c'est l'accompagnante, en fait, qui va être là pour la plus en lien dans la féminité, en fait, dans l'accompagnement émotionnel de la femme. pendant le temps de la grossesse, s'il y a besoin, l'accouchement, s'il y a besoin, etc. C'est un plus, c'est ce qui nous manque énormément dans notre société quand on regarde les sociétés qui sont un petit peu plus proches de, je sais pas, des peuples primitifs ou des choses comme ça. Et ben on va se rendre compte que pour une femme, elle va être entourée d'autres femmes, elle va être entourée d'expériences autour d'elle, qui va permettre du coup de donner sa confiance en elle. Tu es une femme, tu es comme nous, tu as ce pouvoir en toi en fait de donner la vie, de fabriquer la vie, de donner la vie. Et la doula, elle va servir justement à remplacer tout ce qu'on a perdu en fait dans nos sociétés. C'est comme ça que je le vois. Je pense que si tu fais une petite interview avec une doula, elle t'expliquera bien plus en profondeur que moi son métier.
Bien,
Mais
je lance l'appel.
ouais. Ça peut être vraiment intéressant de faire un podcast là-dessus, je pense, parce que ça manque énormément. Alors moi, j'ai jamais ressenti le besoin, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup, donc j'ai eu cette confiance qui me qui est venue en moi par ces lectures, par ces découvertes. Je pense à un mantra qui m'a accompagnée toute ma fin de grossesse, que j'avais trouvé sur le compte Kantik Mama, je crois, Karma Mama. Je vais le lire, je l'ai noté, c'est un mantra. Mon corps, mon cerveau et mon esprit sont puissants. J'ai la capacité d'enfanter mon bébé gravé dans mes cellules. J'ai confiance en ma puissance. Et ça, tu vois, je suis encore émue de juste le relire. Ça m'a vraiment accompagnée pour toujours remettre sur, parce que bon, j'avais quand même des doutes sur, j'ai accouché chez moi pour la troisième. Et j'avais quand même des doutes sur certaines choses. Et ce mantra, il me recentrait à chaque fois. Et tu vois, c'est une doula. C'est pas. Voilà à quoi elle sert, la doula. Voilà, elle m'a servi quand même à moi. Elle a été un soutien pour moi. Elle ne le sait pas encore, peut-être. Mais à travers son mantra, ça m'a servi justement à me recentrer sur ma puissance, sur le fait que je suis capable, mon corps est capable. Et mon esprit doute. Mais mon esprit, c'est pas lui qui va gérer. C'est mon corps qui va gérer. Et mon corps, il est capable, quoi. Donc, c'est ça, toute cet accompagnement, doula, les blogs, des blogs de doula, de sage-femme, être accompagnée par une sage-femme, regarder des vidéos de femmes qui accouchent chez elles, pas forcément si on accouche chez nous, hein, mais vraiment pour comprendre cette puissance de l'accouchement qui n'est pas médicalisée. On ne regarde pas Baby Boom à ce moment-là, par exemple. Enfin, je ne le conseille pas, en tout cas. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour la grossesse. Il y a une petite partie, je pense que tu pourras en dire plus que moi, mais l'importance aussi d'intégrer pendant tout ce cheminement son conjoint ou sa conjointe, ou la personne qui accompagnera si on n'a pas, à ce moment-là, pour que cette personne, qu'elle déboule pas de n'importe où, quoi, qu'elle soit au courant de ce cheminement.
Alors c'est vrai que nous, pour notre cas personnel, on n'a pas fait d'aptonomie, tu vois, par exemple, alors que c'est quelque chose qui peut être recommandé justement aussi pour le père. C'est quelque chose sûrement si on a un autre enfant que je mettrai en place. Mais en tout cas, moi je me rappelle très bien le premier rendez-vous que m'a accompagné à la maternité, la préparation à l'accouchement, où elle est ressortie en disant, alors là, j'ai pas compris, on m'a parlé que de médicalisation, de danger de la grossesse, de danger de l'accouchement, et je me sens pas bien du tout. Et pour le coup, on est allé voir une sage-femme à l'extérieur, en indépendante. Une femme formidable, puisqu'en fait ma compagne elle était plutôt dans une notion de la vision de l'accouchement en mode non, mais moi c'est péridural, je veux rien sentir, je veux pas de douleur, et voilà. Et elle est partie, et avec cet accompagnement-là, on est ressorti en se disant, mais ouais, pourquoi pas l'accouchement à domicile, tu vois. Pour autant, ça n'a pas été ce qui s'est passé, mais en tout cas, ensuite moi j'assistais à tous les rendez-vous avec cette sage-femme et j'ai découvert cette incroyable puissance possible. On t'explique aussi tous les mécanismes hormonaux dont tu parles, hein. L'importance de l'eau froide, de l'eau chaude. Bon, ça, tu vas peut-être en parler après. Tu parlais des chants. Moi, je me rappelle très, très bien comment elle déterminait les différents cris aux différentes phases de l'accouchement. Et surtout, qu'est-ce que moi, je pouvais faire? Parce qu'à un moment, toi, tu te dis, ouais, c'est bien joli tout ça, mais moi, je ne sers pas à grand-chose. Eh ben si,
Si, si.
eh ben si, parce que on sert pas qu'à tenir une main qu'on va nous écraser, hein. Ça c'est le gros cliché
Oui,
qu'on voit
ou
dans
à
tous les
couper le
trucs.
cordon à la fin.
Voilà, ou couper le cordon à la fin. Non non, pas du tout. C'est non non, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Alors bien sûr, déjà c'est être présent. On peut masser, on peut mettre des encens, enfin, on peut mettre des odeurs qui vont éveiller des choses, des émotions, parce que ces émotions, elles vont communiquer des choses positives au cerveau, qui va augmenter ou mettre en place des circuits hormonaux. On peut tout simplement être un soutien aussi physique pour certaines
Ouais.
positions de détente. Enfin, il
Moi,
y a tout un tas de choses.
aussi, par exemple, je vois au moment bon, qu'on appelle souvent la phase de désespérance, mais qui est, enfin, voilà, au moment où la femme peut perdre le pied en disant je vais pas y arriver, je vais mourir en fait. Je vais mourir. Moi, je me rappelle, enfin, c'était pas vraiment la phase de désespérance parce qu'elle était très tôt. Mais j'aurais eu besoin à ce moment-là, quand j'ai dit à mon conjoint je ne vais pas y arriver, parce que pour mon dernier accouchement, j'ai souffert beaucoup. J'ai vécu deux accouchements sans péri, mais pour celui-là, j'ai vraiment souffert. J'ai eu très très mal. Et ça a commencé très tôt, la douleur vraiment présente. Et ça a duré assez longtemps. Et je lui ai dit, mais je ne pourrais pas. Et je n'avais pas de baignoire, ce qui m'a manqué en fait. Franchement, c'est vraiment indispensable ça, mais bref. Donc, il n'y avait rien qui pouvait me décontracter. Je lui ai dit, je vais pas y arriver. Et lui, en fait, au lieu de me dire, mais si, tu vas y arriver, je sais, j'ai confiance en toi, ton corps, il est capable de le faire, j'aurais eu vraiment envie de besoin, enfin, j'aurais eu besoin d'entendre ça. Ben, j'ai vu sa panique dans son regard, du genre, merde, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et du coup, ben, ça ne m'a pas vraiment aidé. Je me suis dit, bon, ok, laisse tomber, lui, il ne t'aidera pas. Fais-le toute seule. Dommage, je l'ai fait toute seule. Mais j'aurais préféré que ce soit lui qui me le donne à ce moment-là.
Mais pareil, tu vois, enfin, ces infos, faut les avoir. C'est moi, je sais que je m'étais fait mes petits schémas et tout, tu vois, en me disant, alors, à ce moment-là, je peux dire ça, à ce
Oui,
moment-là, je peux
oui,
dire ça,
oui,
des astuces,
oui.
tu vois.
Ouais.
Mais tu sais pas. Et puis, il y a ce moment aussi où à un moment, alors plus particulièrement pour le premier, je pense que pour un autre accouchement, ça se passerait différemment. Mais un, tu sais
Oui.
pas. Et deux, toi, en tant qu'homme, enfin, en tant qu'accompagnant, t'es totalement
Ouais.
dépassé par la
Ça peut être
situation.
impressionnant, ouais.
Il se passe quelque chose avec lequel tu n'es pas. Je vais pas dire que t'es pas en lien parce que c'est pas vrai, mais il se passe quelque chose qui te dépasse. Il se passe quelque chose qui te dépasse ce que naturellement, si tu veux, tu vois, un homme peut. Enfin, naturellement, j'aime moyennement ce terme, finalement, mais je veux dire, on n'est pas programmé, nous, spécialement, si tu veux,
Oui, cette
pour
intensité.
comprendre ce qui se passe. C'est ça, tu vois.
Parce que oui, ça peut
Et
être.
j'ai envie de te dire.
Vas-y.
Et j'ai envie de te dire, on n'a même pas la force physique. On peut même pas imaginer la force physique qui est mise en œuvre à ce moment-là.
Ouais.
Parce qu'on a tendance à dire que les hommes ont plus de force physique que les femmes, parce qu'on voit les choses au travers du milieu du sport, de machin. Mais si on prend vraiment cette dimension, tu vois, de l'accouchement et de la puissance qui est mise en œuvre par un corps de femme à ce moment-là, on est dépassé.
Ça peut être très déstabilisant en effet pour la personne qui accompagne parce que la femme, je parle dans un accouchement sans péridurale où cette intensité, en fait, on est obligé pour un accouchement sans péridurale, t'es obligé de te reconnecter réellement à ton côté sauvage. On est des animaux et c'est principalement au moment de l'accouchement sans péri que tu vois, que tu restes un animal entièrement, quoi. À pousser des cris qui viennent de on ne sait où, quoi. On savait même pas qu'on était capable de faire ce genre de son. De mettre dans des positions qui vont paraître énormément bestiales. Et c'est vrai que pour la personne qui est là, qui observe et qui vit pas cette chose, je veux dire, c'est une transe en fait. C'est exactement comme, oui, c'est une transe. On est exactement dans une transe. Et cette transe, du coup, elle peut être très, très déstabilisante pour le conjoint s'il n'est pas au courant que ça va se passer. Du coup, c'est vrai que, pour le coup, parce que je dis le conjoint parce que pour une conjointe, peut-être que ça se passerait pas de la même manière.
Oui, alors c'est vrai que
Comme
moi,
tu
là, je
dis,
parlais des hommes, mais en
voilà.
effet, ça peut être deux
Après,
femmes. Hein.
je sais pas si c'est uniquement quand on le vit ou pas, enfin, quand on le vit pas qu'on peut déstabiliser ou si c'est une question de genre, je sais pas du tout.
Bah, je veux bien profiter pour faire un petit appel à témoignage sur le
Ouais.
sujet, parce que c'est vrai que c'est une question
Ouais.
intéressante. Si vous êtes un couple de deux femmes et où l'une a accouché, qu'est-ce que
Carrément.
l'autre a ressenti, ça peut être super intéressant, tu
Carrément.
vois. Est-ce qu'il y a une résonance femme-femme, tu vois, qui se crée
Ouais.
ou pas,
Ouais.
voilà. si vous nous écoutez.
Donc voilà, oui, donc du coup, la personne qui accompagne, c'est bien de l'intégrer dès la grossesse, pendant qu'on commence à se poser des questions, à dire ah, ça je voudrais, ça je voudrais pas. Et, ou peut-être qu'on voudra plus tard, mais voilà, pour l'instant, non, ça je veux pas. Et de l'intégrer au cheminement pour que justement cette personne ait sa place au moment de l'accouchement, parce qu'elle va avoir un rôle à jouer. Et des fois un rôle vraiment vraiment important, quoi. Et je voulais dire aussi sur le fait que d'intégrer la personne qui va nous accompagner pendant la grossesse, c'est aussi de développer une confiance, parce que justement si on accouche sans péri, donc on a besoin de se mettre dans des positions complètement abracadabrantes des fois, quoi, où vraiment l'intimité elle n'existe plus. Ou alors elle est là, mais avec la personne qui est là. C'est-à-dire qu'on va être à quatre pattes, la foufoune à l'air, voilà, et à pousser un râle qui sort d'on ne sait où, enfin voilà. Et à ce moment-là, il ne faut surtout, surtout, surtout pas qu'il y ait notre cerveau qui dise « Eh ben dis donc, je ne te dis pas la position dans laquelle je suis, quoi. Hein, oh là là,
ah,
il est en train de regarder ça, dans quelle position il est, oh là là, il voit tout, tu vois. » Et ces trucs-là qui peuvent mais complètement déconnecter de ce qui est en train de se passer, et pour le coup, ramener des hormones qu'on ne veut pas, quoi. Pas à ce moment-là, en tout cas, quoi. Et c'est vrai que cette chose de faire la grossesse à deux, ça permet à ce moment-là de créer une confiance mutuelle qui fait que ben, je lui fais confiance, je vais vraiment être moi à ce moment-là, me donner moi et être. Je l'ouvre à mon intimité complète, en fait. Hein, c'est ça.
Ouais, moi, je sais que c'est marrant ce que tu dis avec les positions abracadabrantesques et tout. Moi, une des questions que j'ai posées pendant les rendez-vous avec Isabelle, je mettrai son nom plus tard, c'était un truc tout con. Hein, ça va peut-être vous te faire marrer, mais je me suis dit. Non mais attends, ok, mais si elle pousse comme ça,
ouais.
À un moment, elle fait caca ou elle fait pas caca?
Bah, j'allais y venir, de prévenir non, la personne qui accompagne que potentiellement, avec le bébé, il y a un petit colombin qui sort aussi.
Non mais voilà, tu vois, non mais faut le savoir. Après, une fois que tu le sais, une fois que tu
oui,
le sais,
voilà,
si tu veux.
Ça, je sais pas, je
bon,
ben,
bah...
mais ça, il y a,
tu le sais,
y
mais
y a des femmes aussi qui ne le savent pas, et moi, ma mère me l'a toujours dit, hein. Elle nous a toujours dit qu'est-ce qui était sorti avec nous en rigolant, donc du coup, j'étais pas vraiment étonnée, mais oui, c'est quelque chose qui est important parce que ça paraît être du détail et c'est rigolo quand on en parle comme ça, mais ça peut en effet être quelque chose qui, et pour la femme qui accouche et pour la personne qui accompagne, peut provoquer un inconfort, quelque chose qui pareil, qui sera pas compatible avec le moment, quoi.
Tu parlais d'hormones, c'est sûr que si tu injectes du cortisol à ce moment-là, c'est pas cool du tout, quoi. Ça va raidir les muscles, enfin ça va faire toutes les réactions qu'on veut pas, donc oui, c'est sûr que c'est compliqué.
Donc voilà, le petit point sur l'accompagnant ou l'accompagnante que je pense qui est important à intégrer dans le sujet de la grossesse. On a fait que la grossesse, on n'a pas fait.
Mais oui, complètement. Eh bien alors allons-y, faisons l'accouchement.
Donc, l'accouchement. Après l'accouchement, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, parce que là je vais parler principalement d'un accouchement sans péridurale. Non médicalisé au possible, ça peut être aussi un accouchement à la maison qui est différent d'un accouchement à l'hôpital où là il va falloir se battre. J'ai choisi là, quand j'ai réfléchi un petit peu de quoi je vais parler, bon, je me dis l'accouchement à la maison, il y a des chances que la femme elle se soit renseignée, elle n'a pas besoin de moi pour savoir comment elle fait ce truc, quoi. L'accouchement à l'hôpital, moi j'ai eu beaucoup beaucoup de retours de mamans qui voulaient accoucher sans péri. La plupart des mamans, j'ai l'impression, ont dans leur premier choix dire je voudrais faire sans péri si j'y arrive.
Mm-hmm.
Donc bah aidons-les de faire sans, parce que faire sans ça se fait pas comme ça. Alors ça peut se faire comme ça, hein, un accouchement éclair pas très douloureux, voire orgasmique. Alors oui, c'est sûr que là, il n'y a pas besoin de grand-chose en outils. Par contre, un accouchement qui dure en milieu hospitalier, ben faut s'accrocher, quoi, parce que le milieu hospitalier, c'est pas le meilleur endroit pour accoucher sereinement, on va dire. Le meilleur endroit pour accoucher, c'est là où la femme se sent en sécurité, parce que c'est ça qui va faire, comme tu dis, faut pour qu'un accouchement se passe bien, il faut éviter la cortisol, il faut éviter l'adrénaline. Enfin, au début, l'adrénaline, elle est bien quand le bébé, il sort. Mais pendant tout le travail de l'accouchement, faut éviter ces hormones-là, faut laisser l'ocytocine, l'endorphine faire leur bien soi. Sauf que dans un milieu hospitalier, il y a des choses qui vont pouvoir bloquer ça, notamment par encore une fois des touchés vaginaux à répétition. Alors eux, ça les rassure, c'est dans leur protocole, mais moi, pour l'avoir vécu, un toucher vaginal toutes les heures qui n'augmente pas, et ben ça stresse en fait. Et c'est le stress, c'est l'adrénaline. Et l'adrénaline, eh ben, ça bloque l'ocytocine et l'endorphine qui permettent d'alléger la douleur, qui permettent au col de s'ouvrir, qui permettent aux contractions de faire leur effet, etc.
Ben, moi, je vais te citer l'exemple de ce qui nous est arrivé. Bon, j'espère que c'est un exemple exceptionnel. Nous, on est arrivé à la maternité et puis... On se met en place avec nos petits rituels, massage, des huiles, petite musique. Voilà, on avait une lumière tamisée, on savait ce qu'on voulait, on s'était préparé, on y était, on était tous les deux dedans. Et puis, les sages-femmes passent. Alors, nous, c'est une étudiante. Sage-femme passe, et puis, bon, elle fait son toucher, elle repasse, machin, elle fait son toucher. Et ça progressait, tu vois. Et ça progressait. Et là-dessus, on était vraiment ravis. Ouais, tu vois, tu vois, tu te dis, ouais, c'est cool, on y va, ça se passe bien, c'est exactement, voilà, on est dans le bon tempo, tu vois. Et donc là, tu te sens bien, tu vois. Et à un moment, je crois, donc 6 heures après.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La sage-femme passe, elle fait à son toucher, et puis elle dit « Oh, je me suis trompée. En fait, vous n'êtes pas du tout à 3 ou 4, vous êtes à 1,5. »
La chute hormonale, là.
Et là, ah ouais, non, mais et là, en fait, tu sais, t'as le moniteur là, qui te dit la puissance des contractions. Et donc, ma compagne, des contractions qu'on arrivait parfaitement à absorber, c'est devenu l'enfer. Et là d'ailleurs, on s'en est pas remis, hein, puisqu'ensuite, on a vu pour une péridurale dès qu'on a pu.
Bah ouais. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour mon aîné, enfin pas dans la chute hormonale comme ça d'un seul coup, mais ça n'avançait pas. J'avais l'impression, enfin je souffrais réellement, et à chaque fois, à chaque heure, elle venait vérifier et ça avait augmenté de 0,5 cm, 1 cm, tu vois, des trucs mais vraiment ou voir rien, voir non mais si ça bougeait un peu, mais non mais continuez ce que vous faites, quoi. Sauf que j'étais dans les aigus. Donc, je vais faire un petit topo de tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, crier dans les aigus. Et quand on crie dans les aigus, bah, qu'est-ce qu'on fait? On remonte tout vers le cerveau. Enfin, les aiguilles, ils sont là-haut. Les bases, elles sont en bas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut descendre. Puisque le bébé, il va descendre. Notre base, elle est en bas. L'ouverture, elle se situe en bas. Donc, il faut être dans les sons graves. Et ben moi, j'étais dans les sons très aigus. Donc, voilà. Mauvais point. Autre chose, j'avais froid. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a froid? Eh bien, les muscles se raidissent. Eh bien, va raidir un muscle qui est déjà contracté, ça fait mal. Ça fait super mal, même quand tu n'es pas en train d'accoucher. Donc, voilà, tu es en train d'accoucher, tu as ton utérus qui se contracte à fond, et tu as froid, donc par-dessus le marché, tu te recontractes encore plus. Donc là, c'était horrible. Le stress des touchés vaginaux à répétition qui me disait que ça n'avançait pas. Les allers-retours des gens qui rentrent dans la pièce. Alors, il faut savoir que les hormones qui rentrent en jeu, alors ça, je l'ai appris avec, encore une fois, Lucille Gomez. Oh, mais il faut vraiment... Je pense qu'il faudrait que ça soit obligatoire, en fait, pour toutes les femmes qui vont accoucher avec son péri, elles partent de la péri et tout ça. C'est vraiment pour tout le monde. La super BD, la naissance en BD, découvrir vos super pouvoirs de Lucille Gomez. Alors, elle est drôle. Elle donne des informations, mais primordiales. Et elle permet à la mère, à la future mère, de se connecter réellement à son pouvoir, quoi, à son pouvoir d'enfanter. Et elle explique ça, et j'ai trouvé ça, mais du c'est d'une logique implacable, mais en même temps, c'est, voilà, tant qu'on ne le sait pas, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais bien sûr, quoi, que la naissance, c'est sexuel, c'est-à-dire que c'est les mêmes hormones qui rentrent en jeu lors d'un acte sexuel consenti avec quelqu'un qu'on aime que pendant un accouchement. Donc, en gros, tout ce qu'on a besoin pour un accouchement, l'environnement qu'on a besoin est exactement le même que l'environnement qu'on a quand on est dans l'intimité avec son amoureuse ou son amoureux. Donc, en gros, les gens qui rentrent... Ben, voilà, il faut juste remplacer une femme qui accouche par un couple qui est en train de faire l'amour. Est-ce que, tu vois, t'imagines, toi, les gens rentrer... Alors, ça en est où, du coup? Vous en êtes où, là? Ça a augmenté? Jusqu'où vous allez? Est-ce que vous... Il y a eu pénétration? Tu vois, ben,
voilà, mais de combien de centimètres la pénétration?
Voilà. Bon, le mec, il déborde direct et la fille, elle a refroidi totalement. Quoi. C'est juste impossible. Et ben, on nous demande de faire ça quand on accouche à l'hôpital, en fait. On nous demande de pouvoir rester dans l'intimité comme si, quand on est en train de faire l'amour, on devait rester concentré. Donc, on nous parle de notre bulle, etc. Ben oui, ben, vas-y, va créer ta bulle, toi, quand on n'arrête pas de te rentrer les doigts pour savoir où t'en es. De te demander où t'en es, de te dire bon bah mettez-vous plutôt comme ça, non mettez-vous comme ça, bah attendez, on va mettre le monito ici, ah bon, on n'entend pas bien le bruit, on va le remettre là, marchez plus, faites ci, faites ça, enfin non, c'est juste impossible, quoi. Donc bon, là c'est là où la personne qui accompagne va avoir un rôle décisif et très important à jouer à l'hôpital, c'est d'être une barrière à tout ça. D'être le ça, c'est-à-dire, ouais. Attendez, elle est dans son truc, vous me parlez à moi et je traduirai quand ce sera le moment, s'il y a besoin de traduire, quoi. Mais pour l'instant, c'est à moi que vous vous adressez. Si la mère, elle doit bouger, ok, bah, je vous dirai qu'elle bouge, etc. Parce que, à part si, voilà, si c'est une sage-femme, par exemple, à plateau technique, ou c'est notre sage-femme qui est venue avec nous à l'hôpital, c'est encore des situations différentes. Mais voilà, dans une situation où à l'hôpital, ça va être très intrusif et très présent et très médical, la personne qui accompagne doit vraiment avoir ça en tête, qu'elle a son rôle à jouer, d'être la barrière à tout ça pour que la mère puisse rester au maximum dans ses hormones qui vont l'aider, dans cette ambiance, qui vont aider ses hormones à jouer leur rôle de baisser la douleur, de faire avancer le travail, de garder confiance en elle, etc. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça aussi.
Alors, maintenant que tu en parles, je me rappelle parfaitement de comment dire, que c'était les propos exacts de la sage-femme qu'on a vu à côté. Ouais, c'était vraiment ça. C'était vous êtes là pour qu'on lui foute la paix principalement. Et après, je te cache pas qu'une fois que t'es dedans, c'est bien beau de l'avoir dit. Une fois que t'es dedans, quand c'est ton dur, premier enfant, je parle. Parce que je reste un homme, mais j'ai eu très très peur, extrêmement peur. Parce que tu sais pas aussi, tu vois, t'es super inquiet. Et t'as quand même une inquiétude de ce qui bien peut sûr se produire, si tu veux. Inquiétude qui est d'ailleurs injectée par le milieu médical en amont, hein, donc pendant la grossesse. Et c'est vrai que par moment, tu sais, moi je sais que je me suis interposé par rapport à certaines décisions, notamment en n'hésitant pas à dire stop, c'est elle qui va décider, c'est pas vous, sur certains sujets. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu vois, par exemple, t'es touché. À aucun moment, je me suis interposé, quoi. À aucun moment. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est des moments où, pour autant, tu vois, quand je revois la scène, où y avait des positions qui étaient mises en place, sauf que pour le toucher, il faut que tu sois allongé, il faut machin.
Alors que c'est pas forcément, du tout. Hein, que pour le coup, pour mon deuxième accouchement, avant de partir à la base, donc j'étais avec ma sage-femme qui aurait dû m'accompagner jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu ce truc. Mais... que je savais déjà, mais voilà, j'ai commencé un gros travail chez moi pour aller à l'hôpital au dernier moment vraiment, bon, ce qui n'était pas du tout le cas, mais et ben, j'étais dans le bain, et ben, elle a regardé dans le bain, j'étais dans une position complètement abracadabrante, et ben, elle a regardé comme ça, quoi. Et elle a su, quoi, lui dire, voilà, si t'es sage-femme, t'as pas besoin forcément d'être sur le dos, allongée, etc. Quoi. Ça, c'est encore une fausse croyance du milieu médical, ah, quoi.
Et ça a été ça, et en effet, c'est vrai que moi je me rappelle très bien de voir ma compagne qui se met dans les positions où qu'elle a envie, quoi, en fait, où ça marche, et puis en plus elle teste des trucs, tu vois, donc faut la laisser, je la revois s'accrocher à la porte, tu vois, enfin voilà, je revois tout ça, et c'est vrai que c'est le rôle qu'il faut avoir, en effet, c'est le rôle qu'il faut avoir maintenant sur un premier accouchement, S'il y a des futurs primo-parents là, qui nous écoutent, ouais. Alors, je vais m'adresser aux hommes, puisque c'est ce que je connais pour le coup, qui accompagnent. Ouais, tu vas flipper. Tu vas grave flipper, ta race. Mais fais confiance. Fais confiance et protège.
Et puis,
Voilà.
vraiment
C'est
de
tout.
prendre conscience que on voit le milieu médical comme une figure d'autorité et on redevient des petits-enfants dedans.
Ah, mais
Donc
complètement.
c'est et puis il leur suffit d'un mot pour te faire peur, quoi. Tu vois, pour mon deuxième, où vraiment je me suis fait confiance, tout se passait très bien. La sage-femme me faisait confiance aussi, enfin, autant qu'elle pouvait à l'hôpital, on va dire, sage-femme de l'hôpital, qui était géniale. Et ben au moment où j'ai eu ma phase de. Comment ça s'appelle? La phase de latence, je crois. Cette phase où il se passe rien, en fait, où j'ai eu un shoot de j'ai eu une péridurale naturelle, on va dire, quoi, mon deuxième accouchement. À un moment donné, j'étais crevée, j'en avais marre. C'était pas, la douleur me dérangeait pas, mais j'avais besoin de dormir, en fait. J'en avais vraiment marre, ça a duré depuis je sais pas combien de temps. Et ben, du coup, mon corps, il s'est mis en pause, quoi. L'accouchement s'est mis en pause, quoi. Au moment où j'en avais le plus besoin, pouf, les contractions se sont baissées, elles se sont espacées, je me suis posée sur le lit et j'ai fait des micro-sommeils. Sauf que ben, j'ai appris qu'après, c'était une phase qui pouvait exister.
Ouais,
Ouais.
je me rappelle de
Et
ça.
que, en fait, c'est normal et c'est bien et c'est nécessaire, en fait. Si la femme, si le corps a produit ça, c'est qu'il y en a besoin, quoi. S'il y a besoin de repos, quoi. Besoin de repos pour, parce que justement, après, hein, j'en suis rendu compte que après cette phase qui a duré, on va dire, 1 heure, une bonne heure, vers la fin de cette phase, j'ai senti, j'étais posée à moitié sur le côté. Sur le lit et j'ai senti que le bébé s'engageait. Et j'ai senti que ça commençait à descendre et tout ça, et que les contractions commençaient à changer un petit peu, et hop, se remettait. Et pourtant, à la fin, elle est venue, elle a dit, bon, par contre, faudrait lui dire là que faut qu'elle marche, hein, parce que le travail, il stagne et c'est pas bon. Donc voilà, eux, c'est tout de suite la panique, un travail qui stagne, le bébé va pas se sentir bien, etc. Et là, alors que jusque-là, elle m'avait fait confiance, jusque-là, mon conjoint m'avait fait confiance, bah, ça a été les deux contre moi. Allez, il faudrait que tu te relèves, allez, il faudrait que tu te remotives un peu, tu vois. Alors que,
Et ouais.
ben non, s'il m'avait écouté à ce moment-là, pour mon dernier accouchement, j'ai eu cette phase-là, et ben, il m'a laissé tranquille, quoi. J'étais chez moi avec ma sage-femme qui me faisait pleinement confiance, mon conjoint qui avait vu ce qui s'était passé, donc il savait qu'il fallait me faire confiance aussi, et ils m'ont laissé tranquille, quoi, pendant ce moment-là, tu vois.
Ouais, mais c'est ça. Mais il y avait un
Oui,
déjà vécu
voilà.
aussi, tu vois, avant.
J'aurais pas pu avoir un
Et
deuxième
ouais.
accouchement comme je l'ai eu si j'avais pas eu mon premier accouchement avec tout ce qu'il fallait pas faire, en fait, quoi. Donc je disais le froid,
Ouais.
les gens qui rentrent les uns après les autres, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le fait que moi je débranchais pas, j'étais tout le temps dans le calcul de tout. Alors tiens, là je suis à tant de centimètres, ça fait tant de temps, il faudrait que j'essaie ça, j'avais lu ça, enfin tu vois, j'étais dans la réflexion. J'étais bon, là pour le coup, mon néocortex, il n'était pas débranché, il était hyper actif, quoi. C'était lui qui réfléchissait à tout. Comment veux-tu que le cerveau primitif il prenne le pas là-dessus? C'était pas possible, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Hein, parce que ce qu'il faut pas faire, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a vu que la naissance était intime, donc le maximum d'intimité possible. Peu de lumière, généralement. Mais après, il faut surtout s'écouter. La première chose, c'est s'écouter. De quoi on a besoin réellement à ce moment-là pour se sentir bien et en sécurité? Ça peut être d'être en plein jour, hein. Mais en règle générale, c'est pas beaucoup de lumière, des lumières tamisées. Ça va être peu de personnes, ça va être peu de bruit, des silences. Moi, je me rends compte pour mon dernier accouchement où juste il chuchotait dans la pièce d'à côté et ça me dérangeait, quoi. Donc, je voulais un silence total où ça peut être de la musique aussi, une musique qu'on s'est préparée avant, où on peut pour se concentrer. Il y a un petit truc que je conseille aux mamans qui vont accoucher à l'hôpital, c'est d'y aller avec des boules caisses. Comme ça, on n'entend pas tout ce qui se passe autour. On n'entend pas la sage-femme qui fait le
Ah ouais.
transfert avec le sage-femme. Bon, ben bah voilà, elle en est temps, là, elle a commencé là, machin. Bon, je lui ai pas proposé de péri, mais peut-être qu'il faudrait lui proposer. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Des boules caisses.
Ah,
Ouais,
tu vas voir, elle est un peu
c'est ça.
chiante,
Alors
hein.
voilà, des boules caisses. Il faut prendre des boules caisses, quoi. À manger et à boire. Alors oui, à l'hôpital, on va dire que t'as pas le droit. T'as pas le droit parce que en cas d'anesthésie générale, il y a un risque que
Ouais.
le contenu de l'estomac,
Il
voilà.
faut que
Sauf
l'estomac soit
que
vide.
ils considèrent qu'une femme en travail a forcément le ventre plein. Donc ils le vident. Donc il n'y a aucune raison. pour que la femme ne puisse pas grignoter un peu. Enfin, je te dis pas de te faire une plâtrée, quoi, mais quoi que si t'as faim, tu manges. Hein. Mais généralement, voilà, il y a peu de femmes qui vont avoir faim. Mais viens-moi un bout de chocolat, de boire. Bon, pour mon premier accouchement, ils m'ont accordé de tremper les lèvres dans l'eau parce que j'avais les lèvres sèches, quoi. Mais par contre, j'étais branchée de l'autre côté. Ils me disaient, mais non, c'est bon, vous n'allez pas être déshydratée parce que vous êtes branchée avec du soluté de réhydratation. Enfin, je sais pas quoi, un truc. Sauf que j'avais soif, c'est-à-dire que c'était dans ma bouche, dans mon corps, j'avais besoin d'eau, quoi. Et ils m'ont accordé, et bah, moi j'étais encore j'étais infantilisée. Donc j'ai dit oui. Pour mon deuxième accouchement à l'hôpital, j'ai pas attendu qu'on me dise si j'avais, j'ai pas demandé, en fait, quoi. Quand j'ai eu soif, je suis allée me servir à boire, quand j'ai eu faim, j'ai mangé mon chocolat, quoi.
Mais c'est ça le truc, en fait, c'est toujours le souci de se dire, à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer de pire, quoi. Tu vois, et en fait, le bien-être n'est pas tant pris que ça en compte. Après, attention, encore une fois, on est bien en train de parler d'un accouchement avec une vision sans péri. C'est aussi OK si des parents veulent un accouchement avec péri.
Il doit être respecté tout autant, c'est-à-dire que toutes ces interventions médicales, elles ne sont pas justifiées avec une péri non plus. C'est-à-dire que la péri, c'est important qu'elle soit faite pour que la femme puisse continuer à être mobile si elle a besoin d'être mobile. En tout cas, si c'est un choix de la femme. Bien sûr que si la femme, elle part du principe dès le départ qu'elle ne veut pas être actrice, qu'elle veut que ça soit quelqu'un d'autre qui l'accouche, parce qu'elle se sent pas capable de le faire et tout ça, et qu'elle a pas eu l'accompagnement nécessaire, ou que vraiment, enfin, c'est quelque chose au fond d'elle, bah, on respecte, quoi. Arriver à l'accouchement, on va pas lui dire oui, bah, il va lui faire ça. Bah non, écoute, si la femme, elle a besoin de se sentir emmenée, ben, on respectera ça aussi. Par contre,
Une phrase importante de ma compagne que je retiens vraiment, c'est qu'une fois qu'elle a eu la péri, parce qu'au final, comme psychologiquement, ça n'allait plus, les douleurs étaient insupportables, elle a eu sa péri, d'ailleurs, elle a dormi une fois qu'elle a été sous péri. Pour elle, c'était, voilà, j'avais plus l'impression d'accoucher, quoi. J'attendais qu'on me sorte le bébé, quoi. Et d'ailleurs, ça s'est fini en césarienne, donc c'est
son
ce qui
corps,
s'est passé.
Elle s'est sentie passive et son corps est devenu passif aussi, du coup.
Ah ouais, complètement. D'ailleurs, si c'est césarienne, c'est parce que le bébé ne descendait pas. Et alors après, dans quelle mesure on peut se dire que l'environnement a fait que le corps a répondu comme ça ? Tu vois, c'est une question qu'on pourra se poser peut-être plus tard.
Donc, qu'est-ce qui peut aider ? Alors, pour une femme qui souhaiterait accoucher sous péridurale, donc déjà, que la personne qui l'accompagne soit quelqu'un d'intime, qu'elle se sente à l'aise avec cette personne. Et qu'il ait ce rôle, que cette personne ait ce rôle de barrière avec le milieu médical. Ce qui est important aussi, je pense, c'est donc la lumière tamisée, j'en ai parlé tout à l'heure, la chaleur qui peut être très importante, ou la fraîcheur, parce que c'est pareil, une femme qui a trop chaud, ben en fait, il faut se sentir bien dans son corps, il faut qu'il n'y ait pas de problème au niveau des sensations corporelles pour que, voilà, on puisse. Les sons graves, qu'est-ce qui peut aider de parler à son bébé. Moi, je me rappelle quand ma dernière, elle descendait, que c'était vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Je lui disais, oui, viens, je t'attends, viens, tu peux descendre, je t'attends, enfin voilà. Et de visualiser en même temps et de lui parler et d'être en lien, en fait. Ça permet de plus être concentré sur j'ai mal, en gros. C'est si on a mal, hein, c'est toujours pareil, tous les accouchements ne sont pas douloureux, hein, c'est important de le dire aussi, ça. Dire oui, merci, et éviter les non, je ne veux pas, voilà, parce que automatiquement, ce n'est pas vraiment le mot le problème, mais c'est le positionnement dans lequel il nous met. Si on est en refus de la contraction, forcément, le corps il va tendance à se contracter beaucoup plus que si on est avec la contraction. C'est-à-dire, la contraction, c'est une amie. C'est elle qui va nous permettre, c'est elle qui va ouvrir le chemin du bébé. C'est elle qui va aider au bébé à descendre et qui va nous permettre de rencontrer notre enfant. Donc, la contraction, moi, je me rappelle, j'imaginais que c'était... quand j'avais la contraction, que c'était deux mains qui venaient tirer sur le col... et qui permettait au chemin de s'ouvrir au jour d'arriver vers mon bébé, enfin voilà. Et ça, d'éviter le stress au maximum, comme le dit Lucille Gomez dans son livre, que le stress, il se transmet, quoi. On sait pas trop comment ni pourquoi, mais en tout cas, quelqu'un qui est stressé, qui rentre dans une pièce, même si cette personne ne parle pas, ça va, c'est communicatif,
c'est communicatif
chez nous,
ouais.
Ça va provoquer du stress chez les personnes qui vont être là. Donc, bon, il faut surtout essayer de couper ce stress, d'éviter le stress. Voilà, le bain, oui, quand je parlais de chaleur tout à l'heure, quand on n'a pas de baignoire, une douche, si on n'a pas la possibilité d'avoir des bouillottes chaudes, par exemple, si on a tendance à aimer le chaud, après, ça peut ne pas être utilisé, mais c'est bien de les avoir sous la main au cas où, parce que la chaleur va avoir tendance à détendre les tissus, détendre les muscles, et donc de favoriser, de réduire un peu la douleur et de favoriser la détente et la descente. Voilà. Et puis choisir sa position, oui. La position, c'est pas forcément celle à laquelle on avait pensé au début. Moi, j'ai préparé 2 accouchements à domicile et j'ai préparé 2 fois de quoi me suspendre. Je les ai pas touchés. Et même malgré la sage-femme qui disait, peut-être si tu veux essayer de te suspendre. Non, alors là, surtout pas, quoi. Genre, c'était le dernier truc qu'il fallait me proposer, quoi.
Au moins, c'était prêt.
Voilà, c'est ça. C'est important de se préparer autant. Alors, si on va être à l'hôpital, il y a des hôpitaux qui proposent des maternités, qui proposent des ballons de grossesse, de quoi se suspendre, que ce soit à un tissu ou à une barre ou n'importe quoi. Donc, c'est important de les avoir. C'est important de demander quand on arrive. D'ailleurs, j'ai pas parlé de projet de naissance et ça, c'est important aussi. J'en parlerai un petit coup à la fin, mais de se dire, de savoir qu'il faut que les choses soient à disposition pour pouvoir avoir ce choix de position. C'est pas au moment de la contraction qu'il faut choisir, c'est entre chaque contraction de se dire, tiens, je vais me poser comme ça, je la sens arriver, je me positionne, je l'attends, je l'accueille, elle est là, je la regarde passer, je la vois s'en aller, et hop, je peux souffler et tout ça. Et toujours revenir à cette position, moi par exemple, mais ça va être une position parmi je sais pas combien, mais moi c'était d'être debout appuyée sur un meuble pour mon deuxième accouchement. Et une certaine hauteur. Et voilà. D'accord. Et j'ai passé pratiquement tout mon accouchement. Alors, j'ai passé une grande partie, 3 ou 4 heures dans le bain. Après, il a fallu partir à la maternité. Mais je pense que j'y serais restée jusqu'au bout s'il n'y avait pas fallu partir à la maternité. Et après, c'était être debout. Voilà, c'était comme ça. Jusqu'à ce que j'ai ma phase de latence. Hein, c'est ça, c'est la phase de latence. Je demande en même temps à mon conjoint, pour les gens qui nous écoutent. Ah, quiétude, voilà, merci. La phase de quiétude, jusqu'à la phase de quiétude où là je me pose comme une larve sur ce que je trouve et puis j'attends. Voilà, et ça peut être totalement différent. Ce qui est bien pendant la grossesse, c'est il y a des petites illustrations et tout ça qui regroupent un peu toutes ces positions. La sage-femme, si elle accompagne bien là-dedans, elle peut aussi proposer des choses avec le ballon, etc., pour avoir un petit panel, pour qu'on se trouve pas démunis, hein, comme moi j'ai été pour mon premier accouchement, à dire qu'est-ce que je fais de mon corps quand la contraction arrive, comment je me soulage de ça en fait. Donc c'est bien d'avoir un petit panel de choses, de les essayer pendant la grossesse aussi. C'est sympa parce qu'on peut voir vraiment dans quel état on va être, on peut se mettre, comment...
Ouais. Ça, nous, on l'avait fait. La Sacha nous avait fourni une espèce de... Je crois qu'elle avait appelé ça le Kama Sutra de l'accouchement.
Ah oui, bah oui.
Et pourquoi pas. Et on avait testé, on avait aussi testé la solidité des portes et
oui,
tout, tu vois, pour pouvoir se suspendre.
Ouais. Moi, dans le bain, je m'étais mise avec mon gros ballon de grossesse, là. Mon gros ballon de grossesse, non, mon gros ballon, je parle de mon ventre. Je m'étais mise dans la baignoire pour voir si je tenais et dans quelle position et si j'étais bien. Mais je m'étais retournée au moins 4 ou 5 fois pour trouver la bonne position. Et au moment où le travail a commencé à être un peu intense et que j'ai eu besoin du bain, et ben j'ai su directement comment me mettre et j'étais bien tout de suite, quoi. Et c'était pas le moment de chercher dans quel sens je pouvais me mettre dans ma baignoire, tu vois. Et ouais, ça c'est important aussi de... Ben, voilà, si on projette vraiment un accouchement sans péridurale, je pense que c'est important de se faire tout un panel d'outils. On n'aura pas besoin de tout, mais on pourra piocher là-dedans. Et ça, l'outil, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, regarder des vidéos. L'outil, ça peut être quelque chose qui est en nous, hein, ou un mantra qui nous a parlé. Ça peut être ça, un mantra qu'on emmène avec nous. Pour mon deuxième accouchement, j'avais demandé à toutes les femmes qui étaient importantes dans ma vie, de mon entourage, de me donner une pierre, une perle, pour que je me fasse un collier, pour que je l'aie avec moi, pour sentir que j'étais pas toute seule. Il y avait des femmes qui avaient accouché, d'autres pas encore, d'autres peut-être jamais, j'en sais rien, mais voilà, c'était des choses qui me rappelaient que j'étais capable, que je faisais partie de tout ça. Et cette puissance féminine, quoi, tu vois, qui me rappelait la puissance féminine et donc ma capacité à pouvoir accueillir, à pouvoir faire naître mon enfant sans forcément passer par la péridurale.
Ouais, c'est beau.
Ouais.
C'est beau. Après, tu vois, je vais dévier un petit peu et on va pas forcément répondre à cette question-là, mais je me demande dans quelle mesure, justement, le fait d'enlever à la femme cette conscience du pouvoir féminin et de son corps est un élément du système patriarcal, tu vois.
Ouais. Et les doulas font un sacré travail de redonner ça à la femme, justement.
C'est ça qui m'interpelle, tu vois, quand je pense à cet accouchement, à ce que, comment tu le racontes, quand j'entends ça. Et sans suivre ensuite l'allaitement, tu vois, de se rendre compte qu'on peut faire survivre avec son seul corps à un petit être machin. Je me dis, voilà,
c'était trop de puissance pour les hommes.
Ouais, mais peut-être, mais carrément.
C'était trop de puissance.
Mais carrément, et visiblement encore aujourd'hui, parce que globalement, dans la majorité des cas et des pays occidentaux du moins, ce sont quand même des hommes médecins qui expliquent à des femmes comment ça se passe les accouchements.
Ouais, ouais.
Historiquement, c'est comme ça que ça s'est théorisé, quoi.
Exactement. Donc voilà, si on fait, j'avais dit tout à l'heure que je parlerais de quelque chose à la fin. Le projet de naissance. Oui, le projet de naissance. Eh ben oui, le projet de naissance. Alors bon, je veux pas. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'est pour moi important, une fois qu'on fait son cheminement pendant la grossesse, de poser ça sur papier et de le laisser évoluer. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qu'on fait, qui finit et tout ça, et qu'on envoie, quoi. C'est vraiment important de le laisser, de le commencer dès qu'on en ressent le besoin et de le laisser évoluer pour rajouter, enlever. C'est-à-dire ça, je n'ai pas besoin de le noter parce que je sais. Tu vois, par exemple, moi, pour mon dernier accouchement qui, pour le coup, était prévu à l'hôpital, mais c'est fini à la maison, à l'inverse du deuxième. Ah oui, j'ai préféré dans ce sens-là. donc j'avais du coup fait un projet d'accouchement et j'avais mis au début que j'aimerais qu'on pouvoir manger, boire, etc. Et puis quand je l'ai relu, je l'ai fait évoluer, bah, au bout d'un moment, je l'ai enlevé, ce truc-là. Je me dis, mais j'ai même pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de leur dire que j'aimerais pouvoir manger puisque je suis largement capable de savoir si j'ai faim ou si j'ai soif, quoi. Et que c'est pas à eux de me dire si je dois manger ou boire, quoi. Ou si j'ai pas le droit. Donc ça, je me suis dit, c'est tellement en moi, je suis tellement sûre de moi là-dessus que de toute façon, j'aurais pas besoin de l'écrire. Dire à partir du moment où je vais mordre dans mon collier carré de chocolat, qu'ils vont me dire, ah, par contre, faut pas, je suis même pas sûre qu'ils oseront me le dire, parce que dire, c'est une attitude. Quand t'es sûre de toi sur quelque chose, t'as une attitude qui est différente de quand t'es pas sûre de toi. Et,
oui,
l'attitude, et l'attitude des autres est différente. Moi, j'ai remarqué que l'attitude du personnel médical à mon deuxième accouchement était mais totalement opposée à mon premier. Mon premier, j'étais comme une enfant, je me suis sentie une enfant qui avait besoin d'aide d'adulte. Et à mon deuxième accouchement, je me suis sentie une femme qui venait accoucher là parce qu'elle n'avait pas eu le choix et que, d'après le médical, c'était plus sécuritaire, mais que ce soit à la maison ou chez moi, je sais faire, quoi. Et j'ai eu, du coup, deux sages-femmes qui se sont... donc j'en ai eu deux, c'était pas juste... J'ai eu la chance de tomber sur celle qui m'a fait confiance. J'ai eu deux sages-femmes qui ont accepté des choses qu'elles n'acceptaient pas, en fait, qui n'était pas dans le protocole, en fait, de la maternité, parce que j'avais cette attitude de j'ai confiance en moi, je sais ce qui se passe, là vous faites pas ça, non, là ça va pas se passer comme ça, et c'était pas, je me défendais pas, j'avais pas besoin d'être dans la réflexion, c'est vraiment l'attitude qui était différente. Si on a besoin d'être dans la réflexion, c'est justement à quoi sert le projet d'accouchement, c'est de justement pas avoir besoin d'aller argumenter des choses au moment où on a besoin de déconnecter ce cerveau-là.
Ah, bien sûr. Ouais.
Voilà. Donc le projet d'accouchement, il sert à énoncer les choses, à argumenter, à donner les points les plus importants pour nous, comme par exemple, ça va être de pas avoir de toucher vaginaux pendant le travail, d'avoir le moins de personnel possible qui vient nous voir, de faire d'être ambulatoire, de pas être couillé au lit, de pas avoir de perfusion, donc s'il y a un cathéter, ok, mais pas de perfusion, enfin voilà, des choses comme ça qui vont de pas clamper le cordon avant qu'il ait cessé de battre, des choses comme ça qui vont permettre, ben d'une part, alors il y a plein de choses qui sont pas dans les protocoles des maternités et du coup qui pose problème. Mais si les femmes ne demandent pas, ça restera toujours comme ça. Alors que si on demande,
Oui.
si toutes les femmes venaient à demander « je veux pas qu'on clampe le cordon avant qu'il ait cessé de battre », bah, ils vont peut-être remettre en question leur pratique un peu plus vite que si on attend que ça vienne de la science, quoi.
Complètement.
C'est déjà venu de la science, tu me diras, mais...
Et l'important de le monter à deux aussi, pour le coup, le projet de naissance, là je m'adresse au papa, hein, c'est pas que le problème de la maman.
Exactement. Ouais.
Enfin, au papa et au second parent, du moins. C'est important parce que tu vois, je sais que moi, par exemple, le projet de naissance, j'avais été plutôt éloigné de. Enfin, surtout, on l'avait pas repris avec les éléments de la sage-femme.
Ah oui.
Et je sais que si j'avais. Ouais, maintenant je me rends compte, tu vois, en en parlant avec toi, que si j'avais eu un écrit comme ça en me disant non, mais ça, on veut pas.
Ouais.
Tu vois, je me serais senti de leur dire, écoutez,
plus
on ne veut
légitime.
pas, vous êtes au courant, venez pas nous gonfler, quoi.
Ouais.
En mode gros bourrin des bois, hein, tu
ouais.
vois, mais...
Oui, mais ça, après, bon...
mais voilà.
C'est sûr
ouais.
que c'est mieux de le faire... mais voilà, quand c'est dans l'urgence, tu peux libérer pendant 3 ans. Puis surtout que pour les choses qui concernent l'intégrité de la mère, les choix au point de vue de son corps... S'il n'y a pas de risque pour le bébé, il n'y a pas à discuter, en fait, quoi.
Mais c'est ça. C'est ça.
C'est que tu fais tes choix, quoi. Il y a un truc qui marche bien aussi pour se préparer, justement, au refus potentiel de ce qu'il y a sur le projet de naissance. C'est que, bon, que l'accouchement soit prévu... après, oui, c'est pour un accouchement à l'hôpital, de toute façon. C'est que lors des... Oui, si on est suivi à côté, généralement, on fait au moins un ou deux... rendez-vous à l'hôpital où on va accoucher pour qu'il y ait un dossier de fait avec tout ce qu'il faut dedans qui ne pose pas 25 000 questions à l'arrivée, quoi. Donc il faut qu'il y ait un dossier. Donc à ce rendez-vous-là, justement, de venir avec le projet de naissance et d'en discuter avec la sage-femme qui nous accueille pour lui demander est-ce que ça, ça se fait ici, est-ce que ça, ça se fait ici, est-ce que ça, ça se fait ici. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mon premier pour anticiper justement un petit peu les ouais, mais ça, ils le font pas, bon après. Ça va dépendre de la personne sur qui vous tombez. Ça va dépendre du moment, ça va dépendre de ça. Dans le protocole, c'est non, mais... Et du coup, ça permet de... Bah, d'une part, ce qui est pas mal, c'est de mettre des trucs où on est sûr que ça va être OK. Comme ça, c'est, on demande pas l'impossible non plus, quoi. Et pas juste garder les trucs qui sont pas possibles, parce que ça va être difficile psychologiquement pour l'autre d'accepter tout ça, quoi. Alors que s'il y a des choses qui sont acceptées facilement, bah, ça va... peut-être porter un peu plus à accepter des choses un peu plus difficiles à accepter par rapport au protocole. Je pense surtout au cordon, qui est quelque chose, dans certaines maternités, c'est waouh, quoi.
C'est une technique de marketing enseignée en négociation. Hein,
ah, c'est vrai?
Ouais.
Waouh. Bon, bah, écoutez, c'est naturel, tu vois. C'est un peu de la manipulation,
la négociation au service de votre projet de naissance.
Voilà, c'est un peu ça. Ouais, ça me fait penser un peu de la manipulation. Mais voilà, bon, hein, au grand mot, les grands moyens. voilà, pour faire passer des choses, je pense que c'est bien de mettre tout, de tourner aussi les choses, de pas être trop directif, parce qu'on s'adresse quand même à des personnes, on s'adresse pas à des robots, quoi, hein. Des personnes qui vont avoir leur vie, leur journée, tout ça. Alors, bien sûr, c'est leur métier, mais quand même, ça reste des êtres humains. Donc, d'y mettre les formes. On ne dit pas, voilà, je veux ça, je veux pas ça, je veux ça. C'est mieux d'y mettre les formes en disant, je veux faire ça avec vous. On est ensemble, on le fait ensemble. Vous serez là pour l'accouchement. Moi, je préférerais ça, j'aimerais ça. On a réfléchi sur ça. Voilà pourquoi j'aimerais ça, etc. Bon, du coup, au final, ça fait des projets d'accouchement qui font 3 pages.
Mais pourquoi pas?
Mais voilà, moi, j'ai jamais eu de honte à proposer un truc comme ça. Et ça a toujours été bien reçu. En tout cas, les 2 fois où ça m'est arrivé de faire un projet, parce que pour le deuxième, je ne l'avais pas fait, mais à chaque fois, ça a été bien reçu à l'hôpital. Donc, pour l'accouchement, pour la troisième, je n'ai pas pu savoir. Mais en tout cas, quand je l'ai présenté en amont, lors du rendez-vous, oui, ça a été super bien reçu et au contraire, ça donnait lieu à une belle discussion de personnes qui étaient ouvertes, qui comprenaient plein de choses, qui étaient désolées que le protocole soit pas encore actualisé sur certaines choses, etc. Et on se rend compte que du coup, bah, il y a une confiance qui s'installe avant d'arriver à l'hôpital, c'est-à-dire on n'arrive pas en se disant qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, qu'est-ce qu'ils vont nous refuser.
Donc si je devais résumer, préparer le projet de naissance vraiment, c'est aussi, quand on accouche à l'hôpital, c'est aussi s'assurer qu'à la fin, ça se passera sans bataille, dans des conditions qui nous conviennent.
Voilà.
Et toutes les conditions qu'on a pu évoquer pendant cette
période. Avec, en tête, on est dans un hôpital. Donc en tête, il va falloir de notre côté aussi faire des compromis qu'on n'avait peut-être pas envie de faire au début. Mais si d'un côté, il y a des choses qui sont lâchées par rapport au protocole, sachant que les sages-femmes, quand même, quand elles contournent le protocole, elles se mettent en danger elles-mêmes, quoi. Donc voilà, elles font un effort et réussir à se dire, bon, on ne pourra pas tout avoir, mais un maximum, quoi. Ça, c'est
okay.
De garder ça en tête pour pas être justement dans la difficulté d'accepter ça. On avait dit court, hein.
Merci. Ouais, on avait dit court. Donc pour le coup, on est pas mal là. À peu près une heure d'épisode, on est bien. Ben, merci beaucoup Virginie.
Avec grand plaisir.
Pour ça. Je te dis à bientôt.
À bientôt Cédric.
Salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.